C'est recommencé pour le Canadien de Montréal. Premier match hier contre les Leafs. Il y en a un autre ce soir à Détroit contre les Red Wings. Puis moi, c'est le fun parce qu'à l'heure où les matchs commencent, on regarde Tarte Patrouille sur la 55 pouces. Puis moi, je regarde le Canadien sur mon écran de 4 pouces avant d'aller coucher les enfants. C'est merveilleux. Puis la deuxième, je peux la regarder en vrai sur la grosse télé puis vraiment bien analyser ça. Nick Cloutier, salut.
Salut les gars.
Tu sais, quand c'est l'heure du dodo, à un moment donné, c'est pas toi qui décide. Hein? Fait que...
Hey, j'aimerais ça pour dire que je comprends ta réalité, Max, mais je suis absolument célibataire dans mon condo en ce moment.
Hey, Nick, profite-en.
Quand... Je vais pas me dire, moi, j'ai mon 7-8 heures de sommeil et je vis ma belle, ma meilleure vie, en fait.
Oh, j'ai tout été resplendissant. Moi, je suis fatigué, j'ai mal à la voix.
Moi, je te vois pas, je vois juste un lit en passant en ce moment.
Ah ouais, comment ça donc? On va s'organiser, ça, c'est pas bien important. 82 matchs comme celui d'hier, là, pour toi, Nick, ça égale une présence en série?
Absolument. Moi, je prends le score et je le jette aux poubelles. Et je sais que les gens vont dire, ah ben là, les victoires morales, on est au-dessus de ça chez les Canadiens de Montréal. Ben, premièrement, c'est un match. Deuxièmement, ce que j'observais hier, c'est s'il y avait une structure qui était digne d'une équipe qui allait être compétitive et une équipe qui pouvait aussi faire un bout de chemin en série. Hier soir, j'ai vu une défense qui était beaucoup plus étanche que... Écoute, là, Max, si on se ramène l'an passé à pareille date, Canadien avait gagné 1-0, oui, mais Montembeault avait sauvé le club, il avait été poivré de plus d'une quarantaine de lancers.
48 arrêts, je me souviens.
La défense se faisait trouer de partout. Ouais. Pour moi, ça, c'était bien moins encourageant que ce qu'on a vu hier soir. Et vois-tu, ma plus grande appréhension avant le match, c'était l'infériorité numérique, parce qu'on avait perdu Joel Armia, on avait perdu David Savard, on avait perdu Christian Dvorak. Les remplaçants qu'on a utilisés hier dans ce rôle ont été excellents. Et pour moi, c'est la chose la plus rassurante parce que Oliver Kapanen et Alex Newhook, dans un petit échantillon à 4 contre 5 hier soir, ont été formidables.
Oui. Puis tu sais, c'est rassurant dans la mesure où des situations dans un match canadien où on va faire face à un club rapide où des fois les bâtons vont sortir, comme dans le cas de la pénalité à Patrick Laine hier. Tu vas te retrouver en désavantage numérique. Tu dois avoir confiance de prendre une chance des fois dans ton jeu défensif pour peut-être générer une pénalité, empêcher un but, puis être capable de survivre pendant 2 minutes après. Là.
Exact. Et c'est important aussi de maintenir cette efficacité-là du côté des Canadiens parce qu'on avait fini dans le top 10 en infériorité numérique l'an passé. Je veux dire, c'est quand même une grosse drop après. Je veux dire, si tu descends jusqu'au 20e rang à cause des éléments que tu as perdus, mais il va falloir que tu ailles chercher ça ailleurs avec un bien meilleur jeu à 5 contre 5 ou une bien meilleure efficacité en avantage numérique. Alors, c'est difficile quand une de tes unités spéciales régresse considérablement parce que c'est des pertes qui doivent être mitigées ailleurs. Alors, si on peut maintenir un semblant d'efficacité avec les remplaçants qu'on a déployé hier soir, c'est une excellente nouvelle du côté des Canadiens.
Tout au long de l'été, on s'est beaucoup inquiété du désavantage numérique. Tu en as parlé, d'avoir perdu des membres aussi importants. Non. Mais hier, s'il y a une unité qui était peut-être un peu plus inquiétante que l'autre, c'était l'avantage numérique. Le désavantage numérique a été excellent. L'avantage numérique, on a bien contrôlé le jeu, mais il n'y a pas vraiment une chance de qualité qui ont été créées.
Exactement. Oui, tu as raison. Lane Hudson, je suis pas prêt à dire qu'il a joué un mauvais match hier soir. Il a joué un bon match. C'est juste que moi, j'ai vu ce que Lane Hudson pouvait faire quand il jouait sa game A ou sa game A+.
Ouais.
Hier, on a vu sa game B. J'ai senti un peu nerveux par moment. On parle même pas du jeu malchanceux, là. J'ai senti un peu nerveux par moment avec la rondelle. Il n'avait pas le même aplomb. Il est trop tôt pour spéculer, là. J'espère qu'il n'est pas embêté par la saga qu'on connaît.
Ben, écoute, on s'en parlait, Nick. On a eu la discussion dans la pause, Oli puis moi, parce que je vous racontais qu'on pouvait lire dans les coulisses, là, justement, que ça a changé de palier chez Quartex. C'est les agents du bureau américain qui ont un peu écarté Sean Coffey de la négociation pour s'entendre avec Kent Hughes maintenant. Ça se peut-tu que le kid soit troublé par ça puis qu'il veut juste que ça se règle?
Ouais, là, tu parles de Ryan Barnes qui aurait pris le lead.
Ouais.
Gregory avait confirmé ça hier. J'avais entendu la même chose entre les branches il y a quelques jours. Mais tu sais, c'est tellement un gros dossier du côté de Quartex. Ça va être un des plus gros contrats qu'on va signer. Mmh. Alors, écoute, tu sais, est-ce que... Je sais que ça a été dépeint un peu comme si on avait tassé Sean Coffey. Moi, je proposerais surtout que ça aurait été bizarre qu'un senior chez Quartex s'en mêle pas quand c'est un contrat d'une telle ampleur et Sean Coffey n'a jamais négocié un contrat de cette envergure-là. Mais pour revenir à ce que tu as dit, Max, Lane Hutson avait donné un mandat là, à son équipe de représentants et c'était « Moi, je veux vraiment que vous complétez ce dossier-là avant le début de la saison » et ça n'a pas été fait. Lane Hutson, on connaît sa personnalité.
Ah oui.
C'est un gars qui adore jouer au hockey, mais c'est aussi un anxieux. Alors, si je me mets dans sa peau, je peux comprendre que lui, il déteste ça parler de lui-même, il déteste ça parler du contrat. C'est pas dans son style, il veut juste jouer au hockey. Alors, je peux comprendre que ça le dérangerait. Je vais juste pas sauter aux conclusions trop rapidement.
Non, faut pas.
Mais force est d'admettre que j'ai vu quelqu'un quand même qui, avec la rondelle, des fois, était un peu nerveux.
Ouais,
si
on
si
sentait
ça se poursuit,
quand...
ça va faire ça, tu sais, les gars. Puis excuse-moi, Ali, mais si ça se poursuit la semaine prochaine, puis jeudi matin, on se lève suite au deuxième match à Montréal, vendredi matin, en fait, la semaine prochaine, puis il nous a donné des matchs comme ça jusque-là. Là, maintenant, on va se poser des questions et l'organisation du Canadien aura ce loisir-là de dire, regarde comment il joue présentement.
Exactement. Tu sais, on verra quand l'échantillon sera un peu plus gros, parce que hier, il était correct, puis... Vers la fin du match, tu sentais peut-être qu'il essayait d'en faire un petit peu trop, là, Hutson, gardait la rondelle un peu trop longtemps, un peu trop de feinte. Tu sais, comme, est-ce que c'est à cause de tout ça? Je le sais pas. Est-ce que ça va y prendre quelques matchs pour vraiment se mettre dans le rythme? Ça faisait quand même, quoi, au moins une semaine qu'il avait pas joué, une dizaine de jours. Mm. Ça va être intéressant à suivre, mais tu sais, je pense pas qu'il y a personne hier chez le Canadien qui a joué un mauvais match. Tout le monde a joué, disons, si on avait donné des notes, là, entre un 5 sur 10 à 7.5 sur 10. Puis si t'es capable de répéter ça 82 fois dans une année, tu l'as dit plus tôt, on va faire les séries, il n'y a pas de doute.
Play-off. Mais, tu l'as dit, Ali, écoute, si on avait... Même Patrick Laine, il a pris une pénalité stupide, entendons-nous.
Ouais,
mais après, lors des rares présences qu'il avait sur la patinoire, tu vois une volonté quand même de faire quelque chose, de se rendre utile à 5 contre 5. Et ça va être un des beaux projets pour les Canadiens. Mais un autre joueur que je surveillais vraiment étroitement hier soir, c'était Juraj Slafkovský.
Ah oui, c'est toi qui lui a donné son surnom de Second Half Slaf? C'est toi, ça?
Ça, c'est pas moi, c'est le côté anglophone. Ne me mêlons pas à cela.
Okay.
Mais tout pour dire que c'est un surnom qui existe bel et bien et qui est peu flatteur pour Slafkovský. Second Half Slaf, comme tu l'as mentionné. Et Slafkovský veut se défaire de cette réputation.
Mais oui.
Et on n'a pas vu second half Slack hier soir. On a vu un Slafkovský très engagé, toujours près du filet, toujours près de l'action. Les statistiques avancées que j'ai sur mon ordi, c'est 5 chances de marquer. Premier chez les Canadiens hier, 6 tirs au but. Aussi très important, l'an passé, quand Juraj Slafkovský avait commencé la saison, là, il y a quelqu'un qui lui avait soufflé à l'oreille que c'était Jack Hughes. Il essayait de déjouer des joueurs maintenant, essayait des longues séquences à possession de la rondelle. Mais c'est pas comme ça que Slafkovský sera efficace dans la Ligue nationale de hockey. Le premier match, il semble déjà avoir compris ça. Ça peut faire une méchante différence sur une saison complète. Si Juraj Slafkovský a compris que ce sera un joueur linéaire qui va avoir du succès en se tenant proche de l'enclave et en gagnant des batailles en arrière du filet.
Puis tu sais, il y a eu une séquence même là, où beaucoup d'implications physiques. Je pense que c'était avec McMahon, un mané devant le filet, il l'a tiré par le chandail, il l'a amené avec lui. Moi, ce slaf-là, d'après le sifflet, le sourire fendu jusqu'aux oreilles, gros bonhomme, ça se peut qu'il te mette une main dans le t-shirt, j'haïs pas ça du tout. Là.
Un peu de FU dans son jeu. Hein?
Ouais, mais ça prend ça, puis ça va prendre exact. Ça pour pouvoir passer au prochain niveau pour Slaf. Moi, on l'a dit en ouverture, j'ai beaucoup aimé Zachary Bolduc hier. Vraiment, son implication, le but qu'il a marqué, la façon dont il a fait les choses hier, puis tu sais, que t'en marques 20. Sa tête à une main en faisant des spinoramas ou que tes marques devant le filet en les ramassant sur des retours, c'est la même affaire. Ça a la même valeur dans le hockey professionnel. Puis Zach Bolduc, s'il joue comme ça, il va avoir une solide saison.
Ben écoute, je vais te répondre, Max, ça a une plus grande valeur pour moi parce que ça, c'est un but de marqueur de but dans la LNH.
Ben oui.
C'est les buts que tu marques dans le junior, là, toe drag, tu as réussi à traverser 2-3 bâtons, tu sors le gardien de ton jackstrap, c'est bien beau. Là, tu réussiras pas à faire ça sur une base régulière dans la LNH. Il a marqué un but de marqueur de but, Zachary Bolduc, hier. Il a flairé l'occasion, a suivi le jeu et a sauté sur une rondelle libre. Y a-tu un but qui est pas plus marqueur de but que ça dans la LNH? Non. Zachary Bolduc a fait exactement ce qu'on demandait de lui. J'ai adoré son trio avec Brendan Gallagher. Ouais. Et ça, c'est l'histoire vraiment d'un joueur qui s'est vraiment bien développé à travers les années parce que lui, il vient d'une école de développement qui est absolument unique, qui est celle de Denis Francœur. Francœur, là, lui, c'est des ateliers là, où on est axé seulement sur les habiletés individuelles et on laisse aux entraîneurs plus tard dans la carrière du jeune de développer le jeu collectif. Alors, c'est des ateliers sur l'équilibre, sur les mains, sur le tir, juste des habiletés individuelles. Alors, quand Zachary Bolduc est arrivé dans la LHGMQ, c'était un joueur d'habileté, un joueur de skills. Et c'est vraiment quand il est arrivé chez les professionnels que a ajouté d'autres dimensions à son jeu. Et quand on l'a vu dans les séries l'an passé à Saint-Louis, il était très impliqué, il était physique et c'était un joueur qui avait un impact dans les deux sens de la patinoire. Alors, chapeau à Zachary Bolduc parce que lui, on parle d'un joueur de skills qui aurait pu demeurer seulement un joueur de skills comme plusieurs joueurs le sont demeurés et n'ont pas réussi à accéder à la LNH à cause de ça. Mais il s'est bien adapté et a bien tiré des leçons.
Puis je suis content que tu le mentionnes, Nick. Puis je trouve ça important des fois de souligner le travail, tu sais, des joueurs québécois qui se sont rendus à la Ligue nationale, mais des gens qui sont derrière eux puis qui ont aidé à gravir les échelons. Parce qu'il y a des joueurs que tu les regardes à 12, 13, 14, puis il n'y a rien d'évident dans leur cas. C'est des bons joueurs de hockey qui ont des skills, qui ont la maturité. Puis à un moment donné, ils tombent sur la bonne personne, puis il y a un genre de déclic qui se fait. Puis tu sais, David Perron, là, qui était le plus bel exemple du late bloomer dans le hockey professionnel, ou à peu près, c'est un gars qui a joué pour les Panthères de Saint-Jérôme dans le junior. Là, puis c'est rien pour envoyer un courriel à ta mère quand tu joues. T'sais, avec beaucoup de respect, il y a très peu de chances que tu progresses au prochain niveau. Mais des gars comme Francœur, puis il y en a plein là, qui ont formé des joueurs de la Ligue nationale de hockey. Moi, j'aime ça, saluer leur travail, puis dire à quel point ils sont importants dans le développement du hockey.
Puis, et encore là, je veux dire, il n'était pas parfait comme joueur après l'Académie de Francœur, mais je ne suis pas en train de contester les méthodes de Francœur. C'est juste que lui, c'était une philosophie vraiment différente de celle des autres. C'était que à un jeune âge, là, un très jeune âge où tu apprends la motricité, tu apprends les habiletés, ben il faut que tu te concentres justement sur ces outils-là. Puis après, le jeu collectif, c'est moins difficile à apprendre. Mais les habiletés, c'est tellement inné que faut que tu les enseignes dans les années qui sont les plus formatrices pour un jeune joueur, un peu au niveau Pee-wee, Bantam, c'est là que c'est hyper important. Et c'est ces bases-là qu'il avait créées chez Zachary Bolduc. Après, le reste a suivi parce que Zachary Bolduc avait de bonnes habitudes de travail.
Puis la bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir réévaluer tout ça dès ce soir parce qu'il y a un autre test à Détroit cette fois-là. Tu sais, j'écoutais Gilbert hier dans le club du matin parler de l'importance ou en fait du fait que c'est plus bénéfique pour une équipe de hockey de commencer sur la route loin des Kodak, du home opener à la maison là, avec toute la pression. Tu sais, les gars ont du temps pour se placer avant de revenir à Montréal mardi. Puis ce soir à Détroit, c'est un défi qui est moins grand parce que équipe sur équipe, les Red Wings sont une moins grande menace, mais quand même, ça va être intéressant.
Ah, c'est sûr que sur papier, les Red Wings forment... Même si les Maple Leafs n'avaient pas, Mitch Marner hier soir, sur papier, les Red Wings forment une moins bonne équipe. Et moi, ce que je trouve surtout suspect du côté des Red Wings, et juste besoin d'une petite visite sur Daily FSA pour le constater, c'est la ligne bleue. Écoute, on a Ben Sherrod sur la première paire.
Ouais. Mort Sider.
Mort Sider est là, très bon défenseur, mais il joue avec Ben Sherrod. Ben Sherrod ne serait pas sur la première paire à Montréal. On s'en fait, ça fait des lunes qu'il n'a pas été sur la première paire à Montréal. Ensuite, on a Simon Envidson et Sandin Pelika. Très bon potentiel. Deux jeunes qui ont un bon avenir dans la LNH, mais peu d'expérience. Ensuite, Albert Johansson et Travis Samonic comme troisième paire.
Travis Samonic, il est rendu à quel âge? 52, 53, Samonic?
Ben, c'est ça, là. C'est une méchante boîte à surprise. Puis je pense que du côté des Canadiens, le plan de match, ça va être d'exploiter ça.
Par contre, les Red Wings ont finalement trouvé un gardien. Je sais que John Gibson, ça fait longtemps... qui joue pour une mauvaise équipe, fait que c'est un gars qui, quand tu regardes ses statistiques, pas super impressionnant depuis plusieurs années, mais c'est un gardien hyper talentueux, puis j'ai hâte de voir avec une équipe un peu plus compétitive devant lui comment il va réagir, mais c'est quand même, il y a quelques années, il était vu comme un des meilleurs jeunes gardiens de la LNH, là.
Les gars, on n'est pas au bout de nos surprises dans la Ligue nationale de hockey cette année. Hier, Christian Dvorak jouait sur une première ligne, là, aux côtés de Matvey Michkov et Sean Couturier. À l'aile d'une première ligne dans une équipe de la Ligue nationale de hockey à 5,2 millions de dollars. Si, mettons, je jouais à Géopardy avec ça, il n'y a personne qui me répond Christian Dvorak.
Non.
On s'entend.
Ouais, Heinemann est sur le top 6 des Islanders aussi pour commencer la saison. Écoute, on peut argumenter là, parce qu'il y a aussi le trio de Barzal. Alors, je dirais pas qu'il serait sur le premier trio, là, mais il joue avec Drouin et Horvat. Alors, c'est Drouin, Horvat, Heinemann et Lee Barzal, Palmieri. disons que un A, un B, là, mais Islanders, oui. Méchante bonne occasion de se faire valoir lui aussi en début de saison. Là.
Vous le dites, les gars, les Islanders cette année, là, c'est on causait la surprise. On aura la chance, on se fera des prédictions là, à la prochaine chronique. Hey, merci les gars, merci Nick de ton temps, on va se retrouver la semaine prochaine.
Merci les boys.
Nicolas Cloutier de TVA Sports, suivez-le sur ses médias sociaux et allez lire ses textes sur le tvasport.ca.